Lyon Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Parmi les groupes qui combattent en Syrie, il en est un à part. C'est l'État islamique d'Irak et du Levant. Contrairement aux autres groupes d'opposition, il est transnational et surtout formé majoritairement de combattants étrangers, notamment européens. Et sa hiérarchie dirigeante est presque exclusivement irakienne. Ce groupe multiplie les exactions, y compris contre les populations qu'il est censé défendre. Le pape François avait réservé son premier grand voyage officiel au Proche-Orient. Sans doute espérait-il, au moment de ce choix, arriver au bon moment, celui où les négociations de paix auraient abouti. Raté, le chef des chrétiens a cependant multiplié les gestes symboliques. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Malgré les vives critiques formulées par les Nations Unies, qui estiment que ces élections ne sont pas conformes à l'esprit des négociations de Genève, une élection présidentielle aura bien lieu mardi en Syrie. Elle verra s'affronter, si l'on peut dire, trois candidats qui ont été validés par le tribunal constitutionnel. Bachar al-Assad, bien entendu, l'ancien communiste et désormais député indépendant d'Alep, Maher al-Ajjar, et l'homme d'affaires de Damas, membre d'un petit parti d'opposition toléré, Hassan Abdellah al-Nouri. Nul doute que Bachar al-Assad sortira vainqueur de ce scrutin. Jean-Pierre Filiu, bonjour.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Alors ce n'est pas vraiment cette farce électorale, comme l'ont appelé les Occidentaux, qui nous intéresse, mais plutôt une organisation et un autre personnage emblématique, très actif l'un et l'autre en Syrie et en Irak. Il s'agit de l'EIIL, l'État islamique d'Irak et du Levant, et de son chef, Abou Bakr al-Baghdadi. Alors expliquez-nous tout d'abord, Jean-Pierre Filiu, ce qu'est cette organisation qui mène le combat en Irak et en Syrie.
Je crois qu'aujourd'hui l'EIIL, hein, qu'on appelle dans son sigle anglais ISIS et en arabe Daesh, est l'organisation djihadiste et terroriste la plus dangereuse du monde. Et il est quand même très inquiétant qu'on s'y intéresse aussi peu. C'est pour ça que je suis très heureux que RFI m'offre l'occasion de jeter un coup de projecteur sur ce mouvement qui a déjà fait énormément de mal et qui pourrait, je le crains, en faire beaucoup plus. C'est l'émanation de la branche irakienne d'Al-Qaïda qui a donc été établie il y a 10 ans, à l'époque sous l'autorité d'un djihadiste jordanien, Abu Musab Zarqawi, qui a été tué 2 ans plus tard par un bombardement américain. Et ensuite, il y a eu un autre chef qui s'appelait Abu Omar el-Baghdadi et maintenant Abu Bakr el-Baghdadi. Donc Baghdadi, ça veut dire de Bagdad, et Abu Bakr, c'est le nom du premier calife de l'islam. Donc on voit quand même une très grande ambition, et cette organisation qui s'était développée à la faveur de l'invasion américaine de l'Irak, hein, il n'y avait pas du tout de présence d'Al-Qaïda en Irak avant que les Américains arrivent, s'est maintenant étendue jusque dans la Syrie voisine.
Donc c'est bien une organisation qui est originaire d'un autre pays que la Syrie, en l'occurrence l'Irak.
Tout à fait, qui est aujourd'hui dirigée par un Irakien, Abu Bakr el-Baghdadi, et tout l'encadrement, ce sont des Irakiens. C'est l'organisation qui détenait nos 4 compatriotes, Didier, François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, et même eux, dans les conditions extrêmement difficiles qu'ils ont connues, ont pu se rendre compte d'une hiérarchie où les Irakiens sont au sommet, les autres Arabes tiennent les échelons intermédiaires, et ce sont, si j'ose dire, les traînes savates plus ou moins occidentaux qui font le sale boulot tout en bas.
Qui forment ces troupes essentiellement? Est-ce que ce sont des étrangers? Est-ce que ce sont des Syriens et aussi des Irakiens? Vous l'avez dit en partie. Et surtout, comment cette organisation s'appuie-t-elle sur le terrain? Est-ce qu'elle a des relations avec les populations syriennes, par exemple?
Il faut comprendre que pour Zarqawi, hein, donc son fondateur, qui est un ancien trafiquant de drogue, un délinquant extrêmement brutal, avant de se convertir au djihad, la terreur est un instrument de gouvernement. Et que donc, c'est une terreur absolue qui s'abat sur les populations. Cet État islamique a une constitution. Là, paraît un peu étrange, cette constitution, je l'ai lue. Et c'est affolant, c'est une constitution où il n'y a que des interdits. Donc, cela permet effectivement de faire régner une terreur permanente contre les gens qui fument, contre les gens qui écoutent de la musique, contre évidemment les femmes qui sortent de chez elles, y compris voilées. contre celles qui auraient l'audace de monter dans une voiture avec quelqu'un qui ne serait pas leur mari, etc., etc. Donc cela a permis un système totalitaire qui s'est d'abord imposé dans l'ouest de l'Irak, dans la province d'Anbar, autour d'une ville emblématique qui s'appelle Fallujah, qui avait été prise par Zarqawi et ses partisans en 2004, reprise par l'armée américaine et les milices qui lui étaient liées. Et 10 ans après, les djihadistes ont remis la main sur Fallujah et contrôlent de nouveau une grande partie de cette province occidentale de l'Irak. Ils ont même pu mener des raids jusque dans la banlieue de Bagdad. Et depuis 2013, donc cette organisation est aussi présente dans l'est de la Syrie, autour de la ville de Raqqa, dans la vallée de l'Euphrate, où elle a installé en fait la capitale de son état, et Abou Bakr el-Baghdadi est probablement caché dans les environs de cette ville de Raqqa, où une loi d'airain s'est abattue sur la population, avec exécution publique, enlèvement, kidnapping, châtiment dit islamique, qui sont en fait tout simplement des marques de la terreur totalitaire de ce groupe.
Alors justement, cette terreur, est-ce qu'elle explique le fait que ce mouvement, le IIL, soit le principal adversaire finalement de Al-Nusra, qui est la branche d'Al-Qaïda localement?
Le fait qu'Al-Nusra se réclame d'Al-Qaïda est assez formel. Bon, j'étais en Syrie il y a quelques mois. Je peux témoigner que les militants d'Al-Nusra sont loin d'être des radicaux socialistes ou des démocrates parlementaires. Mais ils sont fondamentalement des nationalistes qui se battent contre Bachar el-Assad. Et donc, quand le IIL, donc quand les djihadistes irakiens ont lancé une véritable OPA sur eux, en rajoutant le L de Levant à leur organisation, et donc en considérant que la Syrie leur appartenait aussi, Nusra l'a refusé et en a appelé à l'arbitrage du chef d'Al-Qaïda, Ayman Zawahiri. Ils se sont ralliés à Al-Qaïda pour alléger la pression de Baghdadi sur eux. Ça n'a pas marché parce que Zawahiri n'a plus de poids. Donc je crois qu'il faut pas aller trop loin dans l'idée Al-Qaïda est divisé, Al-Qaïda connaît une querelle intestine. On a fondamentalement aujourd'hui le groupe djihadiste de l'avenir, et je le crains très profondément, qui est ce groupe de Baghdadi, donc ISIS, Daesh, EIL, et des révolutionnaires syriens, dont Al-Nusra, qui ont fait front contre ce groupe. Et il faut vraiment insister sur le fait que dans les zones tenues par les partisans de Baghdadi, il n'y a qu'eux qui ont droit de cité, il n'y a absolument aucune autre organisation, alors que Nusra vit dans des zones rebelles où c'est loin d'être le paradis, mais où il y a un pluralisme de formations politiques et militaires.
Quel avenir vous voyez pour cette organisation, l'EIL? Vous craignez par exemple qu'elle ne passe vers la Turquie et qu'ensuite elle vienne du côté de l'Europe?
La situation est aujourd'hui, dans ces confins de la Syrie et de l'Irak, bien plus grave que dans l'Afghanistan des talibans avant le 11 septembre. À l'époque, en Afghanistan, on avait des camps terroristes, mais qui étaient soumis quand même, d'une façon ou d'une autre, à une autorité extérieure. Là, on a une organisation djihadiste qui prône l'expansion terroriste et qui est absolument seule maître à bord sur des territoires considérables, où elle accueille des milliers de volontaires étrangers, dont des centaines d'Européens. Je suis donc très inquiet. Aujourd'hui, les seuls qui se battent contre cette force, ce sont les révolutionnaires syriens. Il est affolant que non seulement ce soit eux qui se battent pour leur propre pays, mais aussi, il faut le reconnaître, pour la sécurité de l'Europe.
Merci Jean-Pierre Filliure, professeur des universités à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Dernier ouvrage paru, Je vous écris d'Alep, publié l'année dernière chez De Noël. Et puis je signale également le tome 2 de la bande dessinée Les meilleurs ennemis, dont vous signez le scénario et qui raconte l'histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. C'est publié chez Futuropolis. Le pape François avait réservé son premier grand voyage officiel au Moyen-Orient. Il s'est rendu successivement en Jordanie, puis dans les territoires palestiniens et enfin en Israël. Un voyage que vous avez suivi de près, Geneviève Delrue, en tout cas pour ses parties israéliennes et palestiniennes. Bonjour.
Bonjour Eric.
Alors Geneviève, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce voyage, sachant que vous aviez vu un autre voyage en 2009, vous aviez suivi Benoît XVI.
En fait, j'ai suivi trois papes. Il y a eu Jean-Paul II en 2000, effectivement, en 2009, Benoît XVI. Et précisément, en ces quelques années, moi, ce qui m'a frappé, c'est que Jérusalem s'est considérablement agrandie. Beaucoup de nouveaux quartiers, de belles constructions d'ailleurs. Jérusalem devient vraiment une grande ville occidentale. Mais ce qui m'a frappé dans cette grande ville moderne, eh bien, c'est de voir tant de jeunes juifs ultra-orthodoxes qui sont sortis du quartier traditionnel de Mea Shearim. Et ça m'a effectivement beaucoup frappé.
Alors, qu'est-ce que les gens que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils attendaient de cette visite papale ?
Alors, ils attendaient la visite de quelqu'un qui vient les soutenir. Bon, vous savez bien que les chrétiens d'Orient sont minoritaires. Ils sont d'ailleurs, malgré toute leur communauté, on parle toujours de leur émiettement, les melkites, les gréco-catholiques, les arméniens, etc. Mais en fait, ils pratiquent un œcuménisme de survie parce qu'ils savent très bien qu'ils sont effectivement, ils sont fragiles. Alors, ils attendaient que le pape vienne les réconforter, ça c'est certain. Et pour les chrétiens palestiniens, donc la majorité, eh bien, ils attendaient que le pape vienne leur rappeler leurs droits, hein, leurs droits face aux Israéliens. Et ça, le pape l'a fait de façon extrêmement habile, en respectant, je dirais, les deux parties, en ayant, et c'est là où ça m'a beaucoup marqué, où il a pratiqué une diplomatie totalement innovante, hein, là où tout est bloqué, là où tout est verrouillé. On sait très bien que les négociations sont au point mort. Là, le pape vient, il met la main sur le mur de séparation,
oui, imaginez,
geste fort. Mais le lendemain, il va faire un détour. La deuxième surprise, au mémorial des habitants de Jérusalem qui ont péri dans ces attentats dans les années 2000 qui étaient terribles. Et ça, cette symétrie, elle est extraordinaire, ces deux gestes. Parce que ça veut dire, voilà, je viens en médiateur et sortez enfin de ce conflit interminable.
Alors, côté israélien, quel sentiment vous avez eu? Est-ce que la population, est-ce qu'elle attendait ce pape ou pas?
Alors, la population, bon, à vrai dire, non, n'attendait pas ce pape, mais il est évident que les gestes de ce pape, cette symétrie dont je vous parlais tout à l'heure, elle a touché les cœurs. Bon, dans le même temps, ce que j'ai entendu du côté israélien comme du côté palestinien, c'est que, bon, ce pape va pas résoudre les choses. Il apporte un air frais, il apporte du vent frais, mais il va pas résoudre les choses. Par exemple, à Bethléem, lorsque le pape a annoncé qu'il allait inviter Mahmoud Abbas et Shimon Peres, dans un premier temps, ça a été, on comprend pas, c'est en italien. Deuxième temps, c'est, oh, c'est la sidération et les larmes qui coulent. Et puis troisième temps, c'est, oula, mais dans le fond, il en manque un acteur. Il manque Netanyahou, le plus difficile, celui qui bloque tout. Shimon Peres, comme Mahmoud Abbas d'ailleurs, ne sont pas véritablement représentatifs. Eux, on sait qu'ils désirent la paix. Bon, ça n'est pas la même chose du côté de Netanyahou.
Le sentiment que l'on avait quand on entendait certains de vos reportages ou ceux de Muriel Paradon, c'est que pour des juifs particulièrement orthodoxe, les chrétiens n'avaient plus rien à faire dans cette région. C'est votre sentiment?
Alors oui, si on s'en tient au tag, on se dit oui, bien sûr, c'est ce qui peut apparaître. Mais en même temps, il faut aussi rester mesuré. Ce sont des groupuscules. Mais ces groupuscules traduisent quand même, effectivement, une radicalisation des juifs ultra-orthodoxes, qui étaient déjà assez radicaux il y a quelques années. Mais là, maintenant, ils s'expriment et ils ont de l'audace.
Voilà, et ils sont visibles. Merci Geneviève Delrue, grand reporter à la rédaction de RFI, spécialiste des religions. On peut retrouver votre émission Religion du Monde chaque dimanche.
Merci Eric.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem. Nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la victoire écrasante du maréchal Abdel Fattah al-Sissi à l'élection présidentielle en Égypte fait évidemment la une de la presse arabe.
Oui, et les journaux tentent de tirer des leçons de ce qu'ils appellent le tsunami Sissi. Alors, première interrogation, pourquoi Hamdine Sabahi, le candidat nassérien de gauche, a-t-il fait un aussi mauvais score? Alors, la réponse de certains éditorialistes, c'est qu'il a parié sur des jeunes qui n'ont pas fait l'effort de voter. Et puis, corollaire, que sont devenues les forces révolutionnaires et ont-elles été surestimées? Et puis, il y a un second constat, l'appel au boycott lancé par les frères musulmans a été peu suivi, puisque finalement il y a eu 25 millions de votants, c'est-à-dire presque autant que lors de la présidentielle où le frère musulman Mohamed Morsi avait gagné, il y avait 26 millions de participants.
Alors la presse égyptienne, Alexandre, se penche également sur l'avenir des relations entre le pays, l'Égypte, et l'Occident avec un Sissi président.
Oui, et une presse qui pense que, en tout état de cause, l'Occident, dans un premier temps, cherchera des poux à l'Égypte en soulignant que, par exemple, les médias européens et américains ont monté en épingle une faiblesse de participation qui, selon la presse égyptienne, est mineure quand même. Et puis, les journaux s'éclatent en reprenant cette question qui a été posée par un député européen en mission d'observation. Mais où sont donc les femmes ? C'est peut-être la culture du pays qui fait qu'il n'y a pas de femmes qui votent. Alors les journaux rappellent que le député ignorait tout simplement que les bureaux de vote sont des bureaux de vote pour hommes ou pour femmes en Égypte et que les femmes ont constitué 60% des électeurs.
Oui, rappelons que le résultat final de cette élection sera donné la semaine prochaine. La presse israélienne Michel Paul publie plusieurs sondages qui confirment la popularité du candidat du Likoud à la présidence. Mais Michel, le président est élu, rappelons-le, par 120 députés à la Knesset, à bulletin secret.
Et oui, Eric, encore une fois, c'est la course à la présidence qui fait les titres de la presse israélienne avec coup de théâtre et retournement. Il s'avère notamment, selon le quotidien Yedioth Aharonot, qu'au dernier moment, quelques heures seulement avant la fin du dépôt des candidatures, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait un ultime effort pour empêcher l'élection du candidat de son propre parti et il a essayé de persuader une personnalité extérieure, qui ne possède d'ailleurs pas la nationalité israélienne, de se lancer dans la course. Et ce n'est pas de n'importe qu'il s'agit, Elie Wiesel, ni plus ni moins le prix Nobel de la paix, pour succéder à un autre prix Nobel de la paix, Shimon Peres. Wiesel a décliné l'offre et du coup Netanyahou a déclaré qu'il allait finalement malgré tout soutenir la candidature de Reuven Rivlin. Marie indique que ce revirement a provoqué la colère du ministre des Affaires étrangères Lieberman. Quant aux ultra-orthodoxes, selon le journal, ils entendent profiter de l'occasion pour se venger du Premier ministre qui ne les a pas inclus dans sa coalition en votant pour un autre candidat. Bref, de mémoire d'Israélien, il n'y a pas eu une telle campagne électorale pour un poste purement cérémonial que d'aucuns proposent d'ailleurs de supprimer purement et simplement.
Michel, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert a de nouveau des déboires avec la justice.
Condamné à une première peine de prison pour corruption, l'ancien chef du gouvernement est toujours sur la sellette. Selon Haaretz, après les nouvelles pièces à conviction fournies par son ancienne assistante sous forme d'enregistrement de ses conversations avec lui, la police envisage maintenant de déférer Ehud Olmert et son avocat devant le parquet, cette fois pour subordination de témoins. Les deux hommes réagissent dans les journaux. La vérité, proclame-t-il, finira par triompher.
La situation en Libye fait couler beaucoup d'encre dans les journaux arabes, Alexandre Bouchanti, des journaux arabes préoccupés par le désordre grandissant.
Oui, il y a des journaux qui soulignent que la Libye a aujourd'hui deux premiers ministres, alors que, en fait, l'État et le gouvernement n'existent pratiquement pas et que les milices font la loi. Alors, les journaux ajoutent qu'il y a de plus le général rebelle Haftar qui veut débarrasser le pays des islamistes. Et donc, selon les journaux, il y a de quoi préoccuper les voisins de la Libye, et notamment la Tunisie et l'Égypte. Une Égypte qui a d'ailleurs fermé sa frontière avec la Libye et qui a doublé les forces armées présentes sur cette même frontière pour contrer des éventuels débordements, notamment ceux d'islamistes.
Michel Paul, l'affaire de la mort de deux jeunes Palestiniens dans la localité de Betounia, près de Ramallah, connaît un nouveau développement.
Haaretz, c'est le seul quotidien qui continue de parler de cette affaire. Photo à l'appui, le journal affirme qu'il y avait un autre tireur, un militaire, spécialiste des transmissions. Il cherchait de l'action, affirme l'auteur de l'article, mais, souligne-t-il, ce soldat a tiré des balles en caoutchouc. Pas de réponse donc à la question. Qui a tué les deux jeunes Palestiniens?
Alexandre, l'obésité, un mal mondial où les Arabes occupent une place de poids. Un article à lire dans Al-Sharq Al-Awsat.
Oui, Al-Sharq Al-Awsat qui souligne que les champions arabes d'obésité sont le Bahreïn, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman et le Koweït. Et de souligner qu'en fait 58% des hommes et 65% des femmes au-dessus de 20 ans souffrent d'obésité et que plus du tiers des pays arabes en fait souffrent d'obésité chez 50% des hommes et des femmes. Et puis, petit détail, les Égyptiennes sont championnes du monde du surpoids.
Pour conclure cette revue de presse régionale, Michel Paul, votre photo du jour?
Eh bien Eric, c'est la photo du pape François et des présidents Abbas et Pérez. Ils se retrouveront au Vatican le 8 juin pour prier pour la paix.
Merci messieurs, merci à François Porcheron qui a réalisé cette émission, que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr, à la rubrique émission évidemment, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.